Patrick Artus, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Directeur économique de la recherche économique de Natixis. Vous êtes membre du Cercle des économistes. Vous avez coécrit pour en finir avec le déclin les priorités économiques et sociales chez Odile Jacob. Éric Heyer, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances publiques et co-auteur d'Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion, Champ Actuel. Et Sylvain Aurébi, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis, l'été Cousmi. Alors, bouclier tarifaire, chèque énergie, chèque inflation du mois de décembre-janvier, plus tout le paquet pouvoir d'achat, ce sont bien 25 plus 25 égale 50 milliards d'euros. On y va, pas de problème, on a 55 milliards de recettes supplémentaires. J'appelle ça du délire budgétaire, Éric Heyer.
Je sais pas. Enfin, je vous laisse la terminologie.
Non, mais
il faut essayer de déchiffrer tout cela. Alors, d'abord, c'est 55 milliards de recettes supplémentaires. Est-ce qu'on peut essayer de les comprendre d'où elles sortent?
Ah oui. TVA.
Il me semble. On n'a pas encore vu vraiment tout le détail du projet de loi de finances. Mais il y a un point qu'on n'aborde pas assez, c'est le déficit de 2021. Vous voyez, à l'automne dernier, lorsqu'on faisait des prévisions pour 2022 et on arrivait à 5% déficit pour 2022. On partait d'un déficit à 8,1 en 2021.
Oui.
En fait, il est à 6,5. Donc, vous voyez, l'écart est déjà là. Il y a 1,6 de PIB qui est déjà dans les tuyaux. Et donc, c'est ça qui fait 30 milliards de recettes supplémentaires. C'est-à-dire que, en fait, globalement, la croissance a été beaucoup plus forte en 2021 qu'il n'était prévu à l'époque. Et donc, vous voyez, dans les 55 milliards, il y a déjà l'erreur passée, en fait. L'erreur passée, on a été surpris, donc il y a 30 milliards. Donc, vous voyez, on se disait, comment on fait pour être à 5 aujourd'hui alors que la croissance ralentit? Oui, mais parce qu'on partait de 8,1. Non, en fait, on part que de 6,5, entre guillemets, de 6,5.
Donc, on se gargarise des acquis de 2021.
D'accord. Donc, pour l'instant, il y a plus de la moitié, c'est cela, en fait. Hein, donc, c'est pas un tour de passe-passe.
Et ensuite, j'ai pas dit que c'était un tour de passe-passe.
Et ensuite, il y a beaucoup plus d'inflation qu'anticipée.
Oui.
Alors, vous voyez, l'inflation, on peut considérer que c'est mauvais en termes de pouvoir d'achat, mais pour les recettes publiques, alors, c'est compliqué, pour les recettes publiques, l'inflation, parce que là, l'inflation dont on parle, c'est les prix à la consommation, mais les recettes, elles sont pas que sur l'inflation des prix à la consommation, mais aussi sur le prix du PIB. Et c'est pas la même inflation. Hein.
Et qu'est-ce que vous appelez le prix du PIB?
C'est le prix des revenus plus globaux, en fait. Et ça devrait être ça, la vraie inflation. Et donc, le gouvernement devrait nous donner plus leur prévision d'inflation du PIB, parce que les élasticités des recettes, elles sont plus sur les élasticités du prix du PIB que du prix de conso. Je suis désolé, c'est un peu technique, mais puisqu'aujourd'hui, c'est des prix importés qui font beaucoup d'inflation, c'est peut-être pas aussi favorable aux finances publiques que semble dire le 5 ou le 5,5 d'inflation des prix à la consommation. Mais dit autrement, imaginons qu'on ait une inflation homogène, c'est-à-dire que c'est la même inflation pour tout le monde, que ce soit prix consommation, prix du PIB. Alors oui, à peu près, vous voyez, quand on se trompe de 1 point d'inflation, ça fait 0,3 de déficit en moins. Donc là, le gouvernement pensait que c'était 1,5 l'inflation. Vous voyez, 5,5.
Ah oui.
Donc ça fait 4 points. 4 fois 0,3, ça fait déjà 1,2 de déficit en moins juste lié à cette inflation. Donc, vous voyez, vous y arrivez à cela. Je pense qu'on va essayer d'expertiser tout cela le jour où on aura vraiment le projet de loi de finances.
D'accord.
Mais globalement, nous, à l'OFCE, on était avec un peu moins de croissance sur 5,5 de déficit. Bon, ils ont un peu plus de croissance, etc. Bon, ils ont plus d'informations que nous. C'est probable, en fait, entre nous, qu'on ait 5 de déficit cette année. Bon, encore une fois, c'est conditionné au fait qu'il y ait 2,5 de croissance. Et ça, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Peut-être qu'il n'y aura pas 2,5 de croissance. Peut-être que, on a été surpris. Mais vous voyez, globalement, les bonnes nouvelles étaient déjà dans le tuyau. Tout, l'acquis de croissance, l'acquis des recettes. Voilà. Et après, peut-être que je dirai un mot sur... mais je laisse parler mes camarades.
Sur, vous dites?
On comptabilise, quelque part. Vous voyez, on dit on fait 25 ou 25 milliards de cadeaux supplémentaires, quelque part, en soutien du pouvoir d'achat.
Des cadeaux, des subventions, oui.
Des subventions. Bon, là, je pense qu'il y a une sémantique qui me gêne un peu. C'est-à-dire que, globalement, quand est-ce qu'on considère qu'on demande un effort aux Français ou qu'on aide les Français? Généralement, c'est lorsqu'on on le joue sur l'inflation. C'est-à-dire, je prends le cas des fonctionnaires, quand on gèle le point de la fonction publique, c'est on demandait des efforts aux fonctionnaires. parce qu'ils n'avaient pas l'inflation. Donc là, on leur dit, mais maintenant qu'on leur donne 3,5, c'est en dessous de l'inflation, on leur fait un geste. Non, on leur fait pas un geste. On arrête de leur demander de faire des efforts. Mais c'est pas.
Vous voyez, de la façon dont on calcule. Hein.
Oui, mais de la façon dont on calcule normalement l'effort structurel que l'on demande, ben c'est par rapport à l'inflation. Donc globalement, attention comment on calcule ces 50 milliards.
J'entends tous les niveaux d'expertise qui sont les vôtres, Eric, et Dieu sait si je les respecte et qu'ils se confirment, mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas exactement la même expertise, qui lit la page et demie des Échos ce matin, qui se dit bon, ça va pas si mal que ça. Bon, finalement. Oh, bah non, bah moi j'étais un peu inquiet, bah peut-être des épargnés là maintenant. Vous voyez, oui. Espèce de lecture un petit peu plus simple, Patrick. Votre lecture de cette photographie portée par Gabriel Attal et Bruno Le Maire ce matin.
Trois choses. Je veux répéter ce qu'a dit Eric, qui est très important. Ce qui réduit le taux d'endettement public, c'est pas l'inflation du consommateur. Quand le prix du pétrole est plus élevé, ça, on gagne pas du revenu, on en perd. Hein. Donc c'est les hausses de prix des entreprises en France, quoi, qui sont en ce moment à peu près à 3,5%. Hein. Donc en fait, on a moins d'effet inflation que ce qu'on pourrait croire. Faire un peu attention, on entend souvent dans les débats, on a de l'inflation et donc c'est vachement bon, ça fait baisser la dette publique. Non, c'est que le bout intérieur de
l'inflation. Je suis d'accord, François Eckel nous l'avait largement bien expliqué.
Voilà, et bah, quand vous recevez des quantités, quand vous avez des hausses massives de prix des matières premières, vous appauvrissez au contraire. Hein. Donc, il faut faire très attention à ce raisonnement-là. Ensuite, deuxième chose, si on a ces 55 milliards, moi je ne vais pas mettre en doute les calculs du ministère des Finances. Hein. Ils ont des dizaines de personnes qui...
Ah mais je ne les mets pas en doute, du tout.
Voilà, donc l'OFCE nous donnera une expertise et nous l'apprendrons. Hein. Mais ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de dépenses publiques qui ne sont pas indexées sur les prix. Et ou qu'il y a des impôts qui sont très indexés sur les prix. C'est un prélèvement sur l'économie. Hein. Donc le fait que on réduit le déficit public quand il y a de l'inflation, c'est qu'en fait moral, il y a pas neutralité de l'État vis-à-vis de l'inflation, et donc il nous prélève ces 55 milliards d'une manière ou d'une autre, soit par de fortes hausses d'impôts, soit par des dépenses publiques qui ne suivent pas les prix. Donc faut faire dans les calculs du stimulus budgétaire, faut faire un peu attention. Ces 55 milliards là, c'est une contraction de la dépense. Hein. Troisième sujet, moi je voudrais me placer sur le quinquennat. Sur le quinquennat, alors prenons les chiffres de Bruno Le Maire, on sera sans doute, bah, je pense que Rangori, qu'à la fin de l'année, on sera peut-être un peu au-dessus de 5. Quoi. Enfin bon, partons de 5, il faut qu'on aille à 3.
C'est ça.
Mais, dans le même temps, les intérêts sur la dette publique vont beaucoup augmenter. En tenant compte en plus de la partie qui est de la dette indexée sur les prix. Et donc, au total, on va devoir réduire le déficit public hors intérêt sur la dette de presque 4 points de PIB hein, entre 2023 et la fin du quinquennat.
Donc
sur 4 ans. Donc ça fait presque 4, ça fait presque 100 milliards sur 4 ans. Et ça veut dire qu'on fait le pari que l'économie va aller beaucoup mieux sur les 4 prochaines années qu'aujourd'hui. Sinon, c'est pas raisonnable. Quoi. On fait pas du déficit public. On fait du déficit public parce que l'État peut lisser son intervention dans l'économie. Donc, les mauvaises années, on fait du déficit et les bonnes, on le rembourse. Quoi. Donc,
ça,
si on suppose ça, ça veut dire qu'on se dit la 23-27, ça va être 4 bonnes années. Or, première question, est-ce que les prix de l'énergie vont baisser à partir de 2023? Ben, ma réponse personnelle, c'est non. Ils vont continuer à monter. Ils vont continuer à monter parce qu'on a on a une insuffisance de ressources en énergie aussi bien renouvelables que fossiles. On n'investit pas assez dans les deux cas. Et aussi parce que la transition énergétique, ça fait monter les prix de l'énergie parce qu'il y a toute cette techno qu'il faut monter qui est très chère pour fabriquer de l'énergie renouvelable. Donc, je crois que c'est très déraisonnable de penser que les prix d'énergie vont redescendre. Et puis, les sanctions sur la Russie, ils ont quand même sans vocation à durer, quoi, l'impression. Donc, est-ce qu'on est sûr que les 4 dernières années du quinquennat seront bien meilleures que la première, quoi? Pas du tout.
Non.
Et donc, dans ce cas-là, ce choix budgétaire est très, très dangereux.
Parce qu'il veut dire qu'il y aura un moment où on va passer du sucré au salé. Quoi.
On va devoir réduire les déficits publics dans des mauvaises années, ce qui est une chose très difficile à faire.
Eric qui va vous contredire là-dessus.
Donc, je suis assez inquiet pour toutes ces raisons. Voilà.
C'est pour ça que
dernier point sur votre intervention, sur votre citation. Disant que les fondamentaux de l'économie sont bons.
Mais là, c'est là-dessus que je voulais faire réagir.
Oui, bah juste un mot pour dire que nous venons de casser la barre annualisée de 100 milliards d'euros pour le déficit extérieur pour les produits industriels. Donc, dans un pays qui a 4 points de PIB de déficit extérieur pour les produits industriels, on ne peut pas dire que les fondamentaux de l'économie sont bons, quand même, honnêtement.
Sylvain, par rapport à ce qu'on vient de dire, le fait que 2,5% de croissance, c'est rassurant. Il insiste sur le fait qu'il va continuer la politique de l'offre.
Oui, voilà. J'espère.
2,5% de croissance, c'est rassurant et les fondamentaux sont bons.
Alors, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que, sale temps pour les prévisionnistes. Hein. C'est très très compliqué aujourd'hui.
C'est juste l'enfer.
Ah non, mais
c'est même
aujourd'hui.
Pas un sale temps.
Mais c'est très compliqué parce que les plaques tectoniques, elles bougent. Tout bouge depuis 2-3 ans. La croissance, elle est extrêmement faible, puis extrêmement forte. Elle est mouvante, on ne sait pas où elle va. L'inflation, qui était nulle il y a 2 ans, est devenue extrême aujourd'hui. Et les recettes fiscales bougent tout le temps suite à ces deux indicateurs. Enfin, il y a des tas de choses qui bougent. En plus, on a une guerre qui vient se greffer là-dessus. Le Covid en Chine qui bloque toute la Chine et puis maintenant la Chine redémarre. Où sera-t-elle l'année prochaine? Où sera l'inflation? Où sera le pétrole? Moi, je pense qu'il baissera plutôt. Je suis pas tout à fait d'accord avec Patrick. Je pense que l'ensemble des matières premières baisseront l'année prochaine. Elles commencent à baisser aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est un effet technique ou pas, mais elles commencent à baisser globalement. Bref. Être capable de dire aujourd'hui, que qu'on soit Bruno Le Maire ou qu'on soit économiste, être capable de dire ce qui va se passer dans un an, il faut être balèze. Maintenant, on est bien obligé.
Ça veut dire qu'il
ne
faut pas augmenter les salaires, ce que vous
non,
me dites. Hein.
Non, je ne dis pas ça. Parce qu'il y a une réalité qui est l'inflation, elle est forte aujourd'hui. C'est pour ça que les mesures catégorielles, les mesures ponctuelles sont plus intéressantes qu'une hausse de salaire généralisée sur laquelle on ne reviendra jamais. Bon. Mais je dis, c'est très, très difficile de se décider. On ne peut que faire confiance au gouvernement qui, pour le coup, a pas été mauvais les 5 dernières années. On peut pas dire qu'ils nous aient trompés sur les chiffres chaque année. Ils vont pas commencer aujourd'hui.
Ah, mais je dis pas que les chiffres
priori,
sont faux, encore
voilà,
une fois.
Absolument. Hein.
Absolument
bon.
Pas.
Mais
c'est l'impression qui ressort de ce discours
oui,
que
oui.
Je trouve un petit peu border, voilà.
Et c'est pas border. C'est qu'aujourd'hui, chacun doit avoir son appréciation sur ce qui va se passer demain. Le ministre en a une. Vous pouvez en avoir une autre. Je note que Patrick et Eric ont pas une opinion très, très différente, finalement. C'est-à-dire qu'ils disent ouais. Pourquoi pas. Donc, c'est très compliqué. Ce que je note aussi, c'est qu'on fait quand même mieux que nos partenaires. Donc, globalement, la France est mieux tirée de cette crise que ses partenaires. Ah
ben l'Allemagne est en train de se faire rattraper par ce qu'il a
alors,
fait ses succès.
Donc, donnons-lui crédit de ça. On ne peut pas se dire... Oh, vous appelez ça, vous dites je ne conteste pas les chiffres, mais vous appelez ça une cagnotte. Mais c'est pire que contester, vous mélanchonisez là.
Mais non, parce que ça fait référence à un moment historique.
Mais ce n'était pas ça, la cagnotte historique de Chirac.
Mais
pas
et ça. C'est la même idée, c'est mieux que si c'était pire. Alors on peut y aller et on donne l'impression, que, comme dit Patrick, on a 100 milliards de trous de commerce extérieur, on va faire 120 milliards de déficit.
Billet négatif là-dedans.
Et on nous dit ce matin que il y a 55 milliards qui tombent du ciel, quel bonheur.
Tout ça pour dire, non, ils tombent pas du ciel, ils sont
parce que excusez-moi d'avoir une lecture un peu populaire du truc.
Ouais, bon, populiste, mais... vous avez dit,
populiste,
pardon, j'ai pas entendu.
Populaire, j'ai
non,
dit.
Non, si, populiste. Donc ce gouvernement continue, il y a une chose qui se passera certainement pas, c'est l'augmentation des impôts. Ce n'est pas dans l'ADN de ce gouvernement d'augmenter les impôts.
Ils le répètent.
Mais
ils l'ont
fait depuis 5 ans.
Oui.
Alors, arrêtez de dire ils vont augmenter les impôts. Ça fait 5
qui
ans.
Qui a dit qu'ils allaient.
À ce micro, je vous entends dire ils vont augmenter les impôts. Et ils ne le font pas.
S'il n'y a pas le scénario optimiste qui permet d'arriver au résultat voulu, il y a un moment où je vous dis.
Il y a une possibilité que la hausse des impôts, je vous le répète, parce
oui,
que la hausse.
Il y en a
impôts,
une autre.
Non, parce que la baisse des impôts de production, typiquement, la baisse des charges sur les entreprises, a produit ses effets dans l'investissement, dans l'emploi, et qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc ne croyez pas qu'il y aura des hausses d'impôts.
Il y a une manière de ne pas monter les impôts, c'est d'étaler dans le temps certaines baisses. Par exemple.
Oui, peut-être.
Ah oui, ben voilà.
Peut-être, nous verrons.
Eric,
enfin, les impôts de production, ils baissent en 2023, confirmé par Bruno Le Maire hier dans les Échos.
Eh bien, on va attendre la loi de finances 2023.
Oui, absolument.
Je vous rappelle en plus que l'Assemblée nationale, ils sont un peu moins en ordre de sainteté. Donc,
oui, mais enfin bon.
Je pense que du côté NUPS, on va très vite voir arriver le mot cadeau aux entreprises. Vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Bon, Eric, allez-y, parce qu'après, moi, j'ai plein de questions sur. Oui. Justement, est-ce qu'il faut un impôt total CMA-CGM? Et puis, quand même, l'histoire de la cote d'alerte, là, je voudrais avoir un avis d'économiste.
Non, mais sur la conjoncture et sur la croissance économique, bon, je suis d'accord avec Sylvain, il faut quand même être extrêmement modeste.
Mais on l'est trop.
Et donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il me semble quand même qu'aujourd'hui, alors je vais faire un peu un biais optimiste, mais on a un biais pessimiste, tout de même. Parce que, vous voyez, je prends juste la Banque de France, il ne faut pas critiquer les collègues, mais tout de même, montre un compte central à 2,3 et un scénario noir à moins 1,5. Mais vous voyez, si le scénario de 2,3 est central, ça veut dire qu'il y a un scénario plus optimiste. Vous voyez, sinon, ils auraient dit il y a deux scénarios, il y en a un qui est le plus probable. Enfin, non, en fait, il dit scénario central, scénario noir, il ne parle jamais du scénario un peu plus positif. Pourquoi on pourrait avoir un scénario un peu plus positif? Les scénarios plus négatifs, on les connaît. Mais c'est quoi les éléments qui pourraient potentiellement nous surprendre à la hausse? Un.
Allez-y.
Alors, d'abord.
Les raisons d'espérer avec Eric Ayer.
Non, mais aujourd'hui, quand même, on est surpris par quoi?
Je
par les créations d'emplois.
Oui.
On a énormément de création d'emplois par rapport au niveau d'activité. Bah, peut-être que globalement, le niveau d'activité est supérieur à ce que l'on a aujourd'hui. Vous voyez, on est en train de réfléchir sur des comptes qui sont provisoires. Peut-être que l'activité est beaucoup est nettement supérieure à ce que l'on voit aujourd'hui. Et ça permettrait d'expliquer une partie. Vous voyez, quand on regarde les créations d'emplois, vous voyez, on est d'après nos modèles, on a 1 100 000 emplois de trop par rapport à ce que nous indiquaient nos modèles, compte tenu de l'activité. Alors, on s'est en expliqué une partie, c'est la durée du travail, qui n'est pas revenue à son niveau d'avant-crise, ça fait 400 000. Il y a les apprentis, c'est à peu près 250 000, il manque 500 000. Il y a 500 000 emplois de trop. On ne comprend pas pourquoi les employeurs qui ont des difficultés de recrutement, qui ont de l'incertitude, embauchent autant. Alors, vous voyez, peut-être c'est les carnets de commandes qui sont pleins, peut-être qu'ils ont peur des difficultés de recrutement à venir, donc ils font de la rétention de main-d'œuvre. Mais vous voyez, ça, c'est quand même une grande interrogation. Mais peut-être il est possible aussi que, ben finalement, le PIB soit au-dessus de ce que l'on nous dit. De la même manière, on a beaucoup de recettes. On disait, il y a 55 milliards, une partie, mais peut-être. Et donc, le gouvernement nous dit, c'est les élasticités aux recettes qui sont, des recettes au PIB qui sont supérieures à l'unité. Ben, peut-être que c'est pas cela. Peut-être que c'est juste le PIB qui, aujourd'hui, est sous-évalué. Donc, vous voyez, on a cela. Dernier point. On oublie, ça y est, les 170 milliards de surépargne. Et là, quand on vous regardait la prévision du gouvernement, on continue à surépargner dans leur scénario à 2,5. On continue à surépargner. Donc on va être, j'ai pas fait le calcul encore, mais au-delà de 200 milliards de surépargne. Mais à un moment, et il y a 200 milliards en France, il y a 2000 milliards aux États-Unis, il y en a 200... dans tous les pays développés, un de ces quatre, cet argent-là va aller quelque part. Ou, je n'en sais rien, dans la consommation, peut-être.
Normalement, dans le thé.
Mais peut-être dans les
c'est pas le cas pour le moment, je vous rassure.
Mais ça peut aller dans l'immobilier ou dans des actions, mais ça peut aller aussi dans le financement de la dette publique, donc les taux d'intérêt. Vous voyez, c'est des sommes tellement gigantesques, hein, 200 milliards d'euros rien pour la France. Vous voyez, Patrick disait, c'est ce qui nous manque à peu près pour financer nos déficits si on veut revenir à 3. Bon, mais voilà, mais ça, il faudra bien se poser la question où ça va aller, d'accord. Et donc, bon, nous on le met pas dans notre scénario, d'accord, mais pourquoi on... Voilà, il y a quelques idées qui nous font croire que peut-être que la situation n'est pas aussi mauvaise que cela, même si, effectivement, on est aussi, nous, comme la Banque de France, nos risques, nos aléas sont plutôt à la baisse aujourd'hui parce qu'on a été échaudés.
Il y a un chiffre qui m'a frappé ce matin, c'est de découvrir que la valeur des obligations corporatives souveraines a chuté de 13%, et que c'est, depuis le début de l'année, et c'est la plus forte chute depuis 40 ans.
Oui.
Scénario rose, Patrick Arthur.
Alors, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé encore qui s'appelle la BCE.
Oui.
Parce que imaginons.
Oh, j'allais pas l'oublier.
Voilà. Imaginons que ça aille en réalité mieux que ce qu'on craint. Alors, les 170 milliards, moi, j'y crois pas du tout parce qu'en fait, ils sont détenus par les 20% de personnes aux revenus
plus élevés.
Vous
croyez pas au fait qu'ils.
Ils vont pas les consommer. Aux États-Unis, c'est très
important.
Aux États-Unis, on a une explosion du crédit. Le taux d'épargne des ménages s'est effondré. Il va vers zéro tranquillement. Et il y a aucune des épargnes. C'est uniquement du crédit. Donc en fait, vous avez la classe moyenne et les classes populaires qui s'endettent pour consommer.
Crédit à la conso, ça repart fort.
Et les riches qui achètent tout, qui investissent, quoi, qui achètent de l'immobilier, des actions, etc. Donc en fait, cet argent-là, il ne sera jamais consommé, je pense. Par contre, on peut avoir, comme aux États-Unis, on peut avoir du crédit. Aux États-Unis, c'est impressionnant et ça commence en Europe, le crédit. Non, moi, je voulais revenir sur la BCE parce qu'on ne peut pas faire de prévision de croissance 2023, alors on parle du futur, sans se demander ce que va faire la Banque Centrale Européenne. Si on a une économie qui, en réalité, va pas trop mal cette année, et si je suis Eric en disant ça peut aller même encore mieux, peut-être que d'abord on se trompe et on verra qu'on a plus de PIB, les révisions étaient énormes dans le passé. Et ben, en fait, le boulot de la BCE pour ramener l'inflation à 2% en 2024 va être horriblement compliqué. Ça veut dire qu'ils vont monter en 2023 les taux d'intérêt beaucoup plus que ce qu'on le pense aujourd'hui, et ça veut dire que c'est eux qui vont mettre l'économie en récession, parce qu'il y a un vieux résultat quand même de la science économique qui est quand même pas complètement faux, c'est que tant que le taux de chômage est inférieur au taux de chômage que nous on appelle structurel, disons normal, l'inflation, elle accélère et elle décélère pas. Et si Bruno Le Maire a raison dans son affirmation de ce matin, que le pic de l'inflation, c'est pas avant la mi-2023, la BCE va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus méchante que ce qu'on attend. Et donc, faut raisonner complètement à l'envers. Faut virer tous les prévisionnistes. Faut pas faire de prévisions. Faut juste se demander qu'est-ce qu'il faut comme récession en 2023 pour que l'inflation descende à 2 en 2024.
Rien de mieux qu'une bonne récession.
Et donc, il faut -1, -1,5, quoi, en gros, de croissance en 2023. Donc, en fait, le résultat de tout ça, c'est que ça sert à rien d'essayer de prévoir ce qu'ont faire les gens. Les taux taux vont monter jusqu'à ce que le chômage monte assez pour tuer l'inflation. Ou alors la BCE renonce à tuer l'inflation, c'est une autre possibilité. Bon,
visiblement, elle n'a pas renoncé, puisque là, elle a un peu fait comprendre qu'elle allait accélérer le mouvement de hausse de taux par janvier, mais probablement en septembre.
C'est la BCE qui est la clé de la croissance future et pas les comportements des uns ou des autres. Ouais.
Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la BCE qui vraiment a la clé? Et j'ai lu pas mal d'avis d'entreprises aux États-Unis où ils ont de plus en plus, et d'acteurs de marché, ils ont de plus en plus la conviction que la Fed va conduire les États-Unis en récession.
La Fed, c'est évident. La BCE, c'est pas tout à fait encore évident.
C'est très dur de prévoir. D'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est que le rapport Cyclope de Philippe Chalmin, c'est la première fois de son histoire qu'il ne donne pas de prévisions chiffrées sur le prix de la tonne de blé.
Mais c'est vrai, parce que on parlait des matières premières. Oui. Je crois qu'on est en train de surestimer cette inflation qui est une inflation conjoncturelle, clairement. Ces matières premières, elles augmentent. Toutes les matières premières agricoles, les matières premières industrielles, elles augmentent aujourd'hui par l'effet des blocages en Chine à un moment, de la guerre en Ukraine. Et donc, il faut regarder ça d'un œil tout à fait différent. Vous serez surpris par la baisse des matières premières l'année prochaine.